Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI, les 20h30 ici à Paris et 19h30 en temps universel.
Sylvie Berruet.
À la une, l'élection de Donald Trump qui fait un retour fracassant à la Maison Blanche. Quelles conséquences pour l'Afrique? Comment réagissent les diasporas aux États-Unis? Le raz-de-marée des Républicains a déjoué tous les sondages et laissé KO le camp démocrate de Kamala Harris. En République démocratique du Congo, l'ouverture des états généraux de la justice sur fond de crise autour des prisons surpeuplées. Et puis l'hommage en Tunisie, 10 ans après sa mort, à l'intellectuel Abdelwahab Medeb, dont l'œuvre a tissé des liens entre l'Orient et l'Occident. Kamala Harris a concédé sa défaite et a appelé Donald Trump pour le féliciter de sa victoire. Elle doit s'exprimer à 21h, temps universel. Donald Trump, lui, fait son grand retour à la Maison Blanche en tant que 47e président des États-Unis. Rappelons que sa campagne électorale a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations et une condamnation au pénal. Les sondages avaient annoncé pourtant un scrutin très serré, mais c'est un véritable raz-de-marée des Républicains. Les réactions à son élection affluent du monde entier, des félicitations de la Chine, de la Russie, d'Israël, du Nigeria, de la Somalie, d'Afrique du Sud ou encore du Maroc. Ces pays se sont joints au concert de félicitations, mais aussi des inquiétudes exprimées par les diasporas. Écoutez le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, Mamadou Dramé.
Et j'étais scotché devant la télé tout au long de la nuit, comme tant d'autres personnes, tant d'autres compatriotes d'ailleurs. Nous sommes préoccupés par la victoire de Donald Trump ce matin. Très inquiet des résultats. La réaction dans la diaspora africaine des États-Unis n'est tout de même pas surprenante. Elle est celle d'une consternation et d'une peur avérée. Tout le monde est choqué. L'effroi des uns et des autres pouvait se lire dans les textes messages que je recevais des migrants qui ont récemment traversé la frontière terrestre, me demandant quel sera leur sort face à l'élection de Donald Trump. Ma réponse est celle-ci. Nous, Association des Sénégalais d'Amérique, avec l'accréditation du ministère de la Justice des États-Unis qu'on a, nous allons faire tout notre possible pour défendre leurs droits dans ce pays.
Mamadou Dramé avec Wely Diallo. Pas choqué en revanche les Sud-Soudanais, car si l'on en croit les réactions exprimées sur les réseaux sociaux, beaucoup de Sud-Soudanais semblent très heureux de voir le dirigeant conservateur américain revenir au pouvoir, et ce alors que le plus jeune pays au monde entretient une relation unique avec les États-Unis, dont les administrations Bush et Obama avaient soutenu l'indépendance proclamée en 2011. Florence Mieto a rencontré ces Trumpistes du Soudan. Du Sud.
S'il vous dit d'arrêter de déconner et que vous continuez, il va vous punir.
Le style direct, voire autoritaire de Donald Trump plaît bien à Lul Hock, 28 ans, influenceur sud-soudanais qui se présente comme un commentateur politique conservateur et panafricain. Hostile aux positions démocrates sur les droits des personnes LGBTQ, il apprécie les valeurs familiales traditionnelles portées par Donald Trump, mais aussi son mot d'ordre « America first », l'Amérique d'abord.
Je ne veux pas que les pouvoirs occidentaux viennent nous donner des ordres en tant qu'Africains. Donc mettre l'Amérique d'abord, ça veut dire ne pas imposer des idéologies occidentales sur le Soudan du Sud.
Daniel Ayuen Jok, ingénieur de 28 ans, a aussi affiché son soutien à Donald Trump sur les réseaux sociaux, car il pense que son élection permettra de faire avancer le processus de paix sud-soudanais.
Avec cette élection, je suis optimiste. Je pense qu'une nouvelle dimension dans la relation entre les États-Unis et le Soudan du Sud va voir le jour, en particulier pour s'assurer que les dirigeants sud-soudanais assument leurs responsabilités et tiennent leur promesse d'organiser des élections.
Le jeune ingénieur regrette en outre l'approche de l'administration Biden face au conflit en Ukraine, à Gaza et au Liban, qu'il qualifie de froide et passive. Il voit dans l'élection de Donald Trump une opportunité pour la paix dans le monde. Florence Mieto, Juba, RFI.
Et revenons à présent sur le premier mandat de Donald Trump qui, il faut le dire, n'a pas laissé un souvenir impérissable en Afrique. Il n'y avait d'ailleurs effectué aucun voyage sur le continent africain. Alexandra Bonjon.
On se rappelle tous des propos désobligeants tenus par Donald Trump en 2018, qualifiant Haïti et les nations africaines de pays de merde, suscitant l'indignation sur le continent. Hormis cet incident, le président Trump a montré peu d'intérêt pour l'Afrique lors de son passage à la Maison-Blanche. Il n'y a effectué aucune visite officielle, contrairement à ses prédécesseurs. Barack Obama, lui, avait visité 7 pays africains lors de ses 2 mandats. Les membres de l'administration Trump se sont également peu déplacés en Afrique. Son principal secrétaire d'État, Mike Pompeo, n'a effectué qu'un seul voyage tardif au Sénégal et en Éthiopie pour tenter de contrer la concurrence économique chinoise, selon selon les analystes politiques. Et pourtant, malgré ce manque d'intérêt affiché pour l'Afrique, la politique africaine de Donald Trump s'est largement inscrite dans la continuité de la politique étrangère américaine. Il a surtout été question de stimuler l'investissement et d'accentuer les échanges commerciaux. Continuité également sur le plan sécuritaire, l'administration Trump a maintenu son soutien aux pays luttant contre la menace terroriste, même si elle a annoncé une réduction de la présence militaire américaine sur le continent.
La tension régnait ce mercredi à Maputo, la capitale du Mozambique, à la veille d'une marche de la liberté, une marche organisée par la principale figure de l'opposition après des semaines de manifestations contre les résultats des dernières élections. En République démocratique du Congo, les autorités ont ouvert aujourd'hui les états généraux de la justice. Ils débutent après des mois de crise entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement, notamment sur la question de la surpopulation carcérale. Les prisons sont pleines à craquer. Pourquoi la justice est-elle malade? C'est le titre de ces états généraux à Kinshasa, Pascal Moulégois.
Acteurs du corps judiciaire, du pouvoir exécutif et des organisations de la société civile, au total 3500 personnes sont réunies au centre des conférences de Kinshasa pour des discussions qui déboucheront sur des propositions de réformes. Nous participons pour veiller à la sauvegarde de l'indépendance du pouvoir judiciaire, lâche un syndicaliste. À la sortie du couloir réservé aux officiels, un haut magistrat estime pour sa part qu'il ne doit nullement être question d'inféoder le pouvoir judiciaire à l'exécutif. Lors des prises de parole, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a souhaité se placer comme un arbitre entre les acteurs de la justice. 7 Congolais sur 10 se disent insatisfaits de la manière dont la justice est administrée aujourd'hui, d'après Constant Mutamba, qui par ses états généraux entend administrer, je cite, « une thérapie de choc sans complaisance et avec courage ». Le président Félix Tshisekedi avait qualifié de malade la justice congolaise et une tache noire de son premier quinquennat. Il est temps de se ressaisir, a-t-il lancé, ciblant notamment la corruption qui gangrène l'appareil judiciaire. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Il y a 10 ans, disparaissait Abdelwahab Medeb, intellectuel tunisien. Une décennie après sa mort, cette figure des deux rives de la Méditerranée, née à Tunis, continue de fasciner. Pendant de longues années, il a produit et présenté une émission dédiée à la civilisation islamique sur les ondes de France Culture, avec toujours dans ses émissions, comme dans ses livres, ce souci de tisser des liens entre l'Orient et l'Occident. Amira Souilem s'est rendu à l'hommage qui a été rendu en son honneur hier à Tunis, à l'Institut français.
Les yeux pétillants et embués, Fawzia Echarfi, physicienne tunisienne, évoque son ami avec nostalgie.
Il était séduisant, intellectuellement, physiquement. C'était un ami agréable et surtout d'une très grande culture. On pouvait l'écouter pendant des heures. Mais quand même, c'était un homme tourmenté. Il était révolté, mais magnifiquement intelligent.
Le matin est un aigle.
Un intranquille lumineux, en guise d'hommage, des lectures de ses textes.
J'ai choisi un extrait du recueil « Les sentiers du monde ».
Science, histoire, philosophie, religion ou encore poésie, Abdelwahab Medeb s'est passionné pour toutes les disciplines. Un documentaire, le mettant en scène dans les ruelles de Tunis, a donné l'illusion qu'il était bien là ce soir-là.
Tout le passé se colorait d'une palette fraîche qui n'avait pas eu le temps de sécher. Je reconnaissais de très nombreux visages parmi les passants. Leur nom, leur origine, leur généalogie se déroulaient devant mes yeux.
À l'heure où les bombes déciment le Proche-Orient, région que Medeb affectionnait particulièrement, tous disaient hier soir que sa voix, plus que jamais, manquait. Amira Souilem, Tunis, RFI.
Et Abdelwahab Medeb, qui a vécu à Tunis, mais aussi à Paris, et un hommage lui sera rendu dans la capitale parisienne. Ce sera vendredi à la Maison de la Poésie. Football et la suite de la 4e journée de la Ligue des Champions. Ce soir, 9 matchs au programme. Le FC Barcelone affronte les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade. Autre affiche, le PSG reçoit l'Atlético Madrid. Bayern Munich sera opposé à Benfica. Sparta Prague à Brest. Inter Milan affrontera Arsenal, Stuttgart, l'Atalanta, Bergame et enfin Feyenoord, Rotterdam sera opposé à Salzbourg. Nous y reviendrons dans la dernière édition d'Afrique Soir. Et puis sachez que toute l'actualité c'est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr avec un dossier consacré évidemment à la victoire de Donald Trump à la présidentielle aux États-Unis. Il est 20h40 ici à Paris, 19h40 en temps universel. Bonne soirée.